Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
Jim est né le 1er avril. Ella est née le 1er mai. Mohamed, Pablo, Laetitia, Zao, Inès et des millions d'autres sont nés aujourd'hui. Bienvenue sur Terre à toutes et à tous. C'est une terre agitée, comme jamais, aussi pleine de promesses que de menaces. Un monde où il semble que l'avenir serait celui de la catastrophe écologique, serait celui d'une intelligence artificielle surpassant les humains, serait celui de masses disciplinées obéissant derrière des murs à des despotes. Eh bien, ce monde, nous ne le voulons pas. Et il est temps de raconter, de décrire, de dessiner le monde que les humains, que les travailleuses, que les écologistes, que les gens de bonne volonté, nous voulons. Et pour commencer à raconter cette espérance, Camille Etienne et François Ruffin, Camille Etienne qui a été présidente de la République un jour, sur Mediapart, le 31 décembre 2023, je ne sais pas si elle a un avenir dans ce domaine, et François Ruffin, activiste, lui, du journalisme, reporter dissident, et peut-être que un jour, il parlera dans le micro de Mediapart le 31 décembre ou à d'autres endroits, nous ne savons pas. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le monde, Camille Etienne, que tu imagines pour Jim, pour Ella, pour Pablo, pour Mohamed, pour Inès, quand ils auront ton âge, dans les 25-26 ans, c'est-à-dire à peu près en 2050, et le monde que tu souhaites pour eux?
Alors, c'est une grande question, et d'abord, juste avant de se plonger totalement dans ces... dans cet imaginaire, c'est un exercice qui n'est pas évident pour moi. Ça me demande un effort intellectuel parce que, pour être très honnête, ça m'a d'abord souvent assez énervée, cette question-là. Dans le sens où on parlait de cette idée de désir et on attendait de nous en disant « mais en fait, séduisez-moi quelque part », en disant « bah oui, votre soulèvement écologique, là, votre chose, on n'ira pas tant que ce ne sera pas assez séduisant. Donc faites la roue avec des paillettes, jonglez, faites des choses, mais là, pour l'instant... voilà, moi, je suis bien. » Et je trouvais que c'était d'une indécence la plus crasse, en réalité. Parce que pour énormément de gens avec qui je passe beaucoup de temps, en fait, des activistes à travers le monde, mais même juste en France, c'est une question de dignité. C'est une question de vie ou de mort qui se joue quand des choix politiques sont pris. Et donc, l'idée de dire « on bougera quand ce sera, quand on aura un intérêt à le faire », je trouvais que c'était une incapacité totale à penser plus grand que soi. Et à se rendre compte que pour certains, c'était même pas une question de désir. C'était juste une question de possibilité d'existence. Donc j'ai souvent envoyé un peu péter d'un revers de la main, cette question du désir et du manque de désirabilité de l'écologie. Et après, j'ai eu ce moment où j'étais sur un plateau avec une députée, sans la nommer, de La République En Marche, qui me disait qu'en fait, c'était une forme de privilège, d'éco-bobo, comme ça, que d'imaginer que ça pouvait être autrement, que de vouloir que ce soit autrement. Et ça m'a mis un peu une claque parce que je me suis dit, mais à partir de quand on a accepté que le bonheur soit devenu un privilège? À partir de quand on a accepté que d'avoir des grandes aspirations, c'était quelque chose qui venait après des besoins dits primaires? Et donc, quand vous m'avez posé cette question de quel monde voulons-nous voir et dans quel monde voulons-nous vivre, c'est quelque chose que j'appréhende parce que, en réalité, je le vis tous les jours. C'est-à-dire que pour moi, il se crée. Je suis quelqu'un fondamentalement ancré dans l'action et je n'ai pas envie de me dire voilà à quoi ça va ressembler demain. J'ai de l'espoir pour demain. Je me dis aujourd'hui, je veux montrer. Cet espoir, il s'incarne dans le fait que je peux montrer que ça peut être différemment, qu'on peut sortir de notre impuissance. Et donc, la chose la plus grande pour moi dans ce fameux monde que je souhaite à ces personnes en 2050, c'est un monde où on peut se sentir libre et surtout libre d'être puissant. Et de retrouver, c'est peut-être la chose fondamentale, c'est ça, c'est de ne pas sentir, de se défaire de cette sensation que le monde passe malgré nous, qu'on est condamné à une existence, qu'en fait on n'y peut rien, que d'autres décident pour nous et qu'on n'a aucune prise et aucune emprise sur ce qui se déroule, sur ce qui se déroule devant nos yeux. Donc peut-être c'est ça d'abord d'un point de vue métaphorique avant de rentrer dans le concret, mais je dirais que la chose la plus fondamentale pour moi c'est ça. C'est un monde dans lequel on a l'impression, et pas seulement l'impression, c'est un monde dans lequel on peut décider, vraiment. Et que le peuple, les gens, se sentent en capacité de décider leur existence, et pas seulement qui sont victimes de choix qui les écrasent et qui sont pris pour eux et non par eux.
François Ruffin, le monde pour Jim, pour Ella, pour Pablo, pour Mohamed, ça sera quoi ?
Au contraire, moi je crois que il y a un profond désir d'autre chose aujourd'hui dans le pays. Le moment qu'on vit, pour moi, c'est un moment de détachement de l'idéologie dominante. Je cite du Gramsci, c'est Mamani. C'est-à-dire un moment où les grands mots, concurrence, croissance, mondialisation, compétitivité, marché, ne sont plus du tout des mots qui font envie, ne sont plus des mots qui enthousiasment, mais sont des mots qui inquiètent et qui dégoûtent. Et donc, on est dans ce temps où, du coup, à la place de nous diriger, on nous domine, et il y a une force de coercition qui se met en place, parce qu'au fond, il y a un profond désir de fuir ça. Et donc, il faut le retenir d'autant plus. Et je pense que, du coup, mon espérance, je la place dans le fait que c'est comme si on avait un geyser de désir et d'énergie sous les pieds, et qu'il fallait, vous savez, comme le sourcier, trouver l'endroit où on plante le bâton pour que ça jaillisse. Mais que dans le cœur des gens, aujourd'hui, massivement, il y ait le désir. Il y ait le désir de remplacer de la concurrence par de l'entraide. Qu'il y ait le désir de remplacer la concurrence par le partage. Qu'il y ait le désir de remplacer la mondialisation par de la protection. Je pense que ce sont des désirs puissants qui demandent à être incarnés. Ensuite, on ne peut pas dire quel monde vous souhaitez juste comme ça, quoi. Parce que, évidemment, c'est une bataille. Et on sait très bien ici tous que cette bataille, on l'amène armée du pessimisme, de la lucidité, mais doublée de l'optimisme, de la volonté. Mais qu'il y a ce pessimisme aussi. Premièrement, c'est une bataille. Deuxièmement, je pense que si on veut remporter cette bataille-là, l'imaginaire, le souhait, doit s'ancrer profondément dans le réel. On n'embarquera pas les gens si on ne part pas de l'existant et si on pose de l'utopie. L'utopie, les gens ne veulent pas de l'utopie. Ils veulent la transformation du réel. Et j'aime beaucoup le concept de Bernard Friot de déjà-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de déjà-là du monde qu'on veut. Et pour moi, la soirée de ce soir, c'est du déjà-là. Parce que ce que vous avez fait ce soir, vous ne l'avez pas fait pour le profit. Vous ne l'avez pas fait pour la production. Vous ne l'avez pas fait pour la consommation. Vous l'avez fait parce que rassembler ici, c'était votre désir pour faire advenir le monde qu'on souhaite. Eh bien, ce que j'appelle, moi, l'acapitalisme. Ce n'est pas forcément de l'anticapitalisme, mais c'est tous ces moments où j'ai posé ce concept, entre guillemets, en écrivant sur les clubs de foot amateurs. Et me demandant comment ça se fait qu'advient le miracle des myopliés, où quand on arrive le dimanche matin, ça y est, on a tous nos maillots qui sont dans un panier, tout est fait, voir le samedi, les gamins qui sont conduits. Ben, tout ce temps-là, c'est du temps qui est arraché, finalement, à la société de production et de consommation, et où il y a des parents, il y a des bénévoles qui viennent donner leur temps. Ils ne sont pas anticapitalistes. Mais par contre, sans doute que la part la plus précieuse de leur existence, elle est acapitaliste. Et je dirais que la bagarre qu'on a eue l'année dernière sur les retraites, s'il s'agit de s'ancrer sur des désirs populaires profonds, on a eu là une bagarre avec 80% des salariés qui étaient pour la lutte qui était menée, avec des millions de personnes dans la rue jusqu'en dans les plus petits recoins du pays. Je pense que c'est profondément une lutte pour l'acapitalisme, c'est-à-dire un temps où on ne sera pas des hamsters dans une cage à pédaler pour produire, consommer. Et ce dont il s'agit de sortir, le monde dont il s'agit de sortir, c'est la société de production et de consommation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en partie produire et en partie consommer. Mais voilà l'étau qu'il s'agit de desserrer. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a un profond désir d'autre chose.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas quand même décrire, parce qu'après tout, vous mettez en cause un reporter dans le désir, ouais. Je tutoie, allez, on va se tutoyer, puisque c'est comme ça. Oui, non, on ne fait pas là l'événement juste pour se réunir et faire quelque chose. C'est pour dessiner le monde. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a besoin de l'imaginer. Je vais prendre un exemple. Dans l'écologie, il y a un mouvement quand même très catastrophiste. Il y a par exemple de plus en plus d'artistes, de romanciers qui le racontent. Il y a un livre qui date de plusieurs années qui s'appelle « Dans la forêt » de John Eklund, je crois, et qui raconte une catastrophe est arrivée et comment deux jeunes sœurs qui vont se retrouver seules, vont faire face au monde qui s'écroule et comment elles vont rebâtir une vie. C'est un livre absolument magnifique parce qu'il nous dit qu'est-ce qui se passe en cas d'effondrement. Je vais reprendre un exemple qui te sera plus familier, François, c'est autour du Front populaire en 1936. Qu'est-ce qui se passe ? Le peuple, les travailleurs, les grévistes imposent les congés payés, imposent ce qui va devenir plus tard la sécurité sociale, imposent un certain nombre de choses. Et donc ça, ils l'ont imaginé, c'est du concret, c'est pas seulement, même si c'est absolument important de le dire, comme l'a dit Camille, la liberté. Je veux un monde dans lequel on soit libre, dans lequel je ne sois pas... Et toi, François, tu as dit aussi quelque chose de plus fort, mais face à l'imaginaire qui est récité au sens de récit, qui est dit, qui est imaginé, qui est raconté par les dominants, là, ce que vous me dites n'est pas un récit qui me raconte une histoire. Donc, il faut aller plus loin que des simples, pas des simples, je retire le mot simple, mais que des valeurs, que des principes. Oui, on est d'accord. Mais ça veut dire quoi la liberté ? Ça veut dire quoi la vie pour les gens dans 20 ans ? Celui qui veut, allez-y.
Est-ce que ça se pose de manière concrète ? Est-ce que le bonheur pour les gens aujourd'hui, ça serait d'avoir le nouvel iPhone ? Ou bien est-ce que ça va être une société où il y a plus de liens ? Où il y a un accompagnement de la naissance à la mort, de l'humain d'abord ? Où il y a des crèches pour tous et toutes, où il y a des animateurs, des animatrices, je le mets au féminin parce que c'est massivement des femmes qui font ces métiers-là, et moi c'est un verbe qui me plaît beaucoup, animer, ça veut dire réveiller les âmes, et je dirais jusque l'EHPAD, où on demanderait à ce qu'il n'y ait pas du rationnement sur les fruits, il n'y ait pas du rationnement sur les protections urinaires, il n'y ait pas du rationnement sur les madeleines, et surtout il n'y aurait pas du rationnement sur les soignants et qu'ils puissent prendre le temps de s'asseoir sur un lit et de tenir la main d'une mamie. Mais au fond, si on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous pensez qui est aujourd'hui le progrès ? Massivement, les gens vont répondre que le progrès, c'est plus de liens plutôt que plus de biens. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est dans ce temps de détachement. Depuis les années 70, il n'y a plus de corrélation entre l'augmentation du PIB, les indices de bien-être et en particulier le sentiment de bonheur. Il y a eu une décorrélation entre les deux. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, les gens sont en attente d'autre chose pour éprouver ce bonheur. Et je pense que le pari de dire que ça se passe par plus de liens, par exemple, que ça se passe par plus de temps qu'on arrive à sortir de ce carcan de la production-consommation. Et après, si je veux embarquer les gens de chez moi, je vais être clair, hein, il faut que ça soit une garantie de travail et de travail stable. Je pense que la question de la stabilité est aujourd'hui une question essentielle. Le fait qu'on soit dans une vie liquide où il faut toujours être mobile, flexible, est devenu insupportable aux gens. Et je suis convaincu qu'on embarquera les gens sur le fait que dans un monde qu'on nous garantit comme ayant de plus en plus de causes d'instabilité climatique, géopolitique et ainsi de suite, nous devons être une option qui assure de la stabilité sur, ben voilà, on peut s'installer dans la vie.
Camille, est-ce que il raconte cette histoire qu'il commence à raconter, ça vous va ? C'est une autre histoire que vous imaginez ? C'est...
Non, totalement, je pense que c'est un monde dans lequel, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est contrairement à ce qu'on a comme idée du projet écologique qui est souvent présenté comme chaotique. On imagine qu'on dit de nous que nous sommes des semeurs de chaos, d'alerte, d'alarme, et qu'on a un imaginaire autour de la lutte écologique, je trouve, qui est celle de, justement, qui va créer de l'instabilité et de l'insécurité. Quand précisément, pour moi, c'est le seul chemin sérieux pour vivre dans un monde plus en paix. Pour que, en 2050, nos chers amis Pablo et toute sa bande ne vivent pas ce qu'on vit aujourd'hui, qui est le fait qu'à chaque fois qu'on est confronté à une information, c'est une information où on se rend compte que le monde est de plus en plus instable. Parce que, désolé, si on revient juste sur le monde d'aujourd'hui deux secondes, c'est quand même rappeler une chose très claire, c'est que l'industrie fossile, notre dépendance à l'industrie fossile, finance massivement les dictateurs et les guerres. Donc, crée de l'instabilité totale. Une immense partie de l'instabilité géopolitique d'aujourd'hui vient de nos dépendances à ces énergies fossiles en partie. Donc, dans le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre, on n'aurait pas tous nos œufs dans le même panier. D'un point de vue énergétique, d'abord, on aurait travailler vraiment à ce que on ait moins besoin d'énergie, à ce qu'on consomme moins d'énergie, donc on ait moins besoin d'en produire, qu'elle soit plus efficace dans la manière dont on l'utilise, et enfin qu'on n'ait pas tous nos œufs dans le même panier, qu'on soit pas dépendant comme ça, par exemple de la Russie. Donc ce sera un monde dans lequel on se sentirait bien plus finalement en sécurité et cette idée de stabilité, de en fait d'apaisement à la fois. Je parle de géopolitique, mais même juste en soi, de se sentir plus en paix, ça me semble être un chemin assez intéressant. Et après il y a quelque chose aussi, c'est j'aime bien me dire il y a cette thématique, ce concept qui s'appelle les imaginaires matérialisés. Donc c'est l'idée de dire qu'est-ce qu'on peut prendre déjà maintenant dans les autres modes de vie. Donc je prends mes notes sur un livre qui s'appelle Ils inventent un monde écologique de chez vous, que je n'ai pas lu, donc pour être très honnête, mais j'imagine que vous prenez des pistes. Il y a tout ce qu'on peut voir aussi dans les zones à défendre, par exemple, qui sont pour moi des zones d'expérimentation d'autres modes de vie, ou même dans l'histoire ou dans d'autres pays, on peut voir, ou même dans les luttes en fait, même dans des très brefs moments. Un exemple très concret, on était à la lutte de l'A69, donc contre une énorme autoroute qui était illégale, hein, on rappelle, puisque le droit a bien dit que nous étions du côté de la légalité, puisque nous défendions des zones qui doivent être absolument protégées. Eh bien, ce que j'avais trouvé complètement formidable, c'est que, alors, il y avait la violence de la lutte, il y avait la dureté de la lutte, il y avait la répression, il y avait tout ça. Mais il y avait aussi ces moments de fête immense. Il y avait ces moments où il y avait des jeux géants en bois avec des échasses pour les enfants, ces zones où, en fait, les parents pouvaient laisser leurs enfants là. Et puis certains se reliaient pour garder les enfants des uns des autres, retrouver une forme de liberté, une forme de communauté comme ça où on prenait soin de quelqu'un d'autre que soi, qui n'était pas forcément à soi, qui ne dépendait pas de nous. Il y avait une espèce d'utopie comme ça où, pendant l'espace de juste une lutte, un week-end, chacun cuisinait, on s'est même pas forcément rendu compte, c'est pas proclamé, mais tout le monde a mangé vraiment très local, avec un agriculteur qui nous avait prêté son champ pour qu'on puisse y mettre tous des tentes. On a tous dansé le soir jusqu'au bout de la nuit. Et en fait, ces moments comme ça, où on arrache à la tristesse du monde qu'il nous impose, ces moments de joie, pour moi, c'est vraiment de l'imaginaire matérialisé. C'est-à-dire que je me dis, ok, dans un monde idéal, ça ressemble un peu à ça aussi, la fête. C'est pas une fête qui détruit, c'est des moments où on se sent appartenir à quelque chose d'immensément juste, et avec des gens avec qui on se croiserait pas forcément. Ça mélangeait toutes les générations. Ça aussi, c'est quelque chose de, pour moi, qui serait très important, c'est qu'on retrouve ce lien entre les générations. J'en ai beaucoup parlé, mais parce que je trouve que ma génération, on a vraiment grandi coupée de... Moi, je vois très peu mes grands-parents, par exemple. Mes amis autour de moi, on voit nos grands-parents un peu à Noël, on a un peu perdu le lien. Ils ne racontent plus forcément leurs histoires. On ne fait plus cet effort-là. On n'est plus en contact avec des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes quand on n'a pas des frères et sœurs. Et on a tellement à apprendre. Quand j'ai commencé à faire cet effort-là, à sortir de ma zone de confort et aller voir qu'est-ce qui se racontait dans ces générations, j'ai trouvé une richesse totale. Donc je crois que c'est aussi un endroit où, en effet, dans les EHPAD, on pourrait aller donner du temps. Enfin, il y a des associations qui le font déjà sûrement aujourd'hui, mais où on le ferait plus, où on irait passer du temps avec des grands-parents qui ne sont pas les nôtres, donner un coup de main dans des crèches, et dédramatiser un peu ces liens familiaux, faire du lien entre les générations en dehors du cadre familial.
La 69, par exemple, c'est un bon exemple parce que beaucoup de gens dans le Tarn sont persuadés que si on fait cette autoroute, ça va créer de l'emploi. Et donc là, on a un imaginaire dominant, on fait des autoroutes, on va créer de l'emploi, Pierre Fabre ou d'autres, on va, etc., etc. Et c'est un imaginaire qui fonctionne encore, même s'il est appuyé, adossé par un pouvoir totalement illégitime. Et donc, peut-être qu'à ces gens-là, il faut leur raconter cette histoire autre qu'évoque ou qu'amorce Camille.
Surtout pour moi, là, on sort du domaine du souhait seulement, mais il faut expliquer que l'écologie, c'est du boulot. Et que ça, c'est des emplois stables. Si demain, on veut transformer nos logements, ben ça veut dire des 5 millions de passoires thermiques, il faut du monde. C'est du boulot. Et c'est du boulot où, moi, je pense que ceux qui le font, ils doivent avoir à la fois une reconnaissance matérielle et une reconnaissance spirituelle. Je m'explique. Il y a bien des pubs à la télé pour l'armée. Engagez-vous, vous défendrez votre patrie, ainsi de suite. Je pense qu'on devrait avoir des pubs pour devenir couvreur, pour devenir plombier, pour devenir plaquiste, et pour dire, voilà, engagez-vous dans le bâtiment, sauvez votre pays, sauvez la planète. Et et avec une reconnaissance qui est de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire une héroïsation de ces métiers-là. Pourquoi je fais un film Debout les femmes qui héroïse, qui met sur, en grand, sur grand écran, les petites mains qui s'occupent de nos enfants ou de nos parents? Pourquoi? Parce que je veux qu'elles soient héroïsées et qu'elles soient les modèles de la société de demain, comme le Parti communiste dans l'après-guerre avait héroïsé le mineur de fond et le métallo, qui étaient ceux qui devaient reconstruire le pays. Ben, je pense que ceux qui tiennent le pays debout aujourd'hui, ceux qui dessinent le chemin de l'avenir, on doit les héroïser. Et ensuite, il faut qu'il y ait une reconnaissance matérielle pour les métiers du bâtiment, par exemple, ou bien pour les métiers d'auxiliaire de vie. On sait que c'est des métiers qui sont souvent mal payés, et ainsi de suite, qui fassent que ben, ça soit comme à l'armée. Peut-être qu'à 55 ans, là, ça y est, c'est la retraite à 55 ans à la place que ça soit à 65, qu'il y a la garantie que ça sera 2000 euros, que même quand il y a des hauts et des bas dans ces métiers-là, il y a une stabilité de l'emploi. Et je pense que si l'écologie lit son discours avec le fait que ça va être de l'emploi et de l'emploi stable, si on dit que demain on veut un atelier de réparation par quartier ou par canton, c'est de l'emploi. Si on dit qu'on veut une agriculture où il y a moins d'entrants chimiques, moins d'entrants mécaniques, c'est de l'emploi. Et je pense que si on veut embarquer les classes populaires, pour moi, la clé, c'est la question de l'emploi. C'est de dire que ça va être de l'emploi et nous, on va construire dans l'emploi stable. Je reviens sur le fait qu'ils nous font de la vie liquide, quand ils nous mettent tout sur le marché du travail. Le marché du travail casse l'emploi et fait qu'il n'y a plus que des bouts de boulot plutôt que d'avoir des métiers avec des gens qualifiés qui en éprouvent de la fierté. Mais tout, quand ils mettent tout sur le marché, ils installent le chaos. Le marché du médicament, c'est des pénuries qui sont multipliées par 7. Le marché du logement, c'est des millions de gens qui sont mal logés ou pas logés du tout. Et donc, nous, on doit venir dire qu'on est une garantie de stabilité qu'on va apporter, sortir de ce chaos, sortir de ce désordre et revenir à un ordre qui est un ordre juste. Et la première des justices, c'est que les gens qui tiennent notre pays debout, ils puissent vivre de leur travail.
Reporter, le quotidien de l'écologie.
Alors, moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous venez de dire, François Ruffin et Camille Etienne, c'est, et puis association d'idées, tout à l'heure, tu as parlé de l'iPhone 7, on ne sait plus à quel numéro on est, ça pourrait être un Samsung ou un Nokia ou un chinois, on s'en fout. Camille a dit, mais j'aime bien qu'on me raconte des histoires d'anciens, de grands-pères, etc. Et ce qui est de fascinant en ce moment, c'est notamment les jeunes, j'y reviens, mais pas que, peuvent passer des heures sur TikTok ou sur Instagram. Et c'est des fausses histoires. C'est un défilé continuel d'images, etc. Et je rebondis encore sur cette notion d'histoire. Tu viens de dire héroïser. Un héros, c'est pas seulement quelqu'un. C'est quelqu'un qui est un héros. C'est-à-dire qu'on va dire à l'assistante maternelle, ce que vous faites, c'est bien. Et le héros Musk, parce qu'ils nous disent que Musk est un héros, par exemple, voire même Bernard Arnault. Bon, Bernard Arnault dans le genre héros, mais malgré tout, l'homme qui a réussi. Donc, héros, racontés, grand-père, iPhone, etc., il y a bien un enjeu, à nouveau, de récit. Il y a bien un enjeu. Et moi, je vous titille, mais je voudrais que, à nouveau, vous me racontiez des histoires encore plus. Parce que, OK, on entend ce que tu dis, la stabilité, l'emploi, etc. Là, on a le programme, en quelque sorte, écologiste et de gauche, enfin, non-capitaliste ou acapitaliste, peu importe. Mais malgré tout, comment on met en mouvement aussi? On met en mouvement parce que peut-être il y a la fête, parce que en plus, toi, tu as fait des campagnes dans la Somme avec beaucoup de fêtes. Enfin, je sais pas, comment on suscite de l'adhésion par... une fois de plus, je reviens avec ce mot d'imaginaire qui est peut-être pas bon, mais voilà. Ma question est vraiment pas précise. Allez-y.
Non, mais juste avant... en fait, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'en effet, l'imaginaire, qu'il produit majoritairement. Quand on regarde l'imaginaire des séries, des énormes séries Netflix, quand on regarde l'imaginaire de la publicité, du marketing, tout est fait pour prôner des valeurs qui sont plutôt inverses aux nôtres. Donc je pense que c'est une bataille, le récit. C'est une bataille, cet imaginaire. C'est ce que disait François, c'est une lutte aussi. Il ne va pas tomber de soi, il ne va pas arriver comme ça, il ne suffit pas de le souhaiter. Donc c'est un élan pour moi, c'est un élan, un phare, un horizon aussi. Et en même temps, une matérialité. Elle existe déjà dans d'autres modes de vie, dans d'autres modes d'organisation, dans des gens qui font sans, qui font en dehors, qui font différemment. Donc on doit s'en inspirer. En revanche, moi en tout cas, je suis de ceux qui essayent aussi d'utiliser les outils qui sont utilisés par ces dominants-là pour contrer le récit qu'ils essaient de nous imposer. notamment on parlait des réseaux sociaux, de la dépendance aux réseaux sociaux, c'est une question qui se pose éminemment aujourd'hui. Il y a des lois qui sont en train d'être regardées ou en tout cas discutées pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que notre génération ne soit pas dépendante des écrans. Moi, c'est particulier parce que j'ai grandi dans une famille où on a été protégé de tout écran pendant une immense partie de mon enfance. J'ai grandi pratiquement sans écran pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ça m'a permis, je dirais, d'avoir une... Alors, jamais assez, hein, parce qu'on est victime aussi de son époque, mais d'avoir un rapport quand même plutôt sain. En tout cas, je m'efforce que ce soit plutôt sain. Et d'utiliser l'objet. Et pas que l'objet m'utilise. Et il y a un livre là-dessus qui est assez génial, bah, de Damasio, le dernier Damasio, qui s'appelle « Vallée du silicium », qui montre comment l'idée, c'est pas de totalement se défaire de l'intégralité de cet outil technique et technologique, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on s'assure qu'il soit toujours seulement à notre service. Et que ce ne soit pas l'inverse. En fait, qu'on ne se fasse pas happer par l'outil. C'est toute la philosophie de Illich, de Ellul et tout ça. Et donc, je me dis, comment est-ce qu'on peut embarquer dans ces endroits-là, qui sont majoritairement et de manière écrasante, qui comportent des imaginaires, comme tu le disais, de la réussite, qui est une réussite capitaliste, en fait, une réussite qui écrase. Comment est-ce qu'on montre d'autres récits, d'autres héros et quand François fait des films, utilise ce média-là aussi culturel pour imposer un autre récit et dire, en fait, ce qu'on va aller voir sur les grands écrans-là, eh ben, c'est peut-être pas des stars d'Hollywood, mais en fait, ça va être les stars d'Hollywood de demain. On va être tellement fiers de reconnaître notre mère, de reconnaître nos amis, de les voir à l'écran. Et ça embarque tellement. Nous, on essaie de le faire sur les réseaux sociaux plutôt, et on a fait un documentaire là récemment, et de dire, on va raconter d'autres histoires dans ces endroits-là. On va montrer que l'activisme, ça marche, qu'on peut reprendre une forme de pouvoir, qu'on peut faire changer des lois, qu'on peut inverser des rapports de force, qu'on peut arrêter une industrie destructrice comme l'exploitation minière des fonds marins. Qu'on peut faire en sorte que les Français et les Françaises, quand ils se font à manger dans une poêle, ils risquent plus potentiellement d'avoir des cancers parce qu'on s'est soulevé, parce qu'on a réussi à travailler, y compris avec des travailleurs de l'usine elle-même de Tefal, pour renverser le truc et faire en sorte qu'il n'y ait plus de polluants éternels. Bon, alors, on n'a pas vraiment gagné sur les poêles, on a gagné sur tout le reste, mais c'est loin d'être fini. Donc, en fait, moi, je me dis que ces imaginaires-là, ils donnent... Moi, c'est assez étonnant parce que j'ai pas l'impression de donner de l'espoir. Je le conscientise pas. Je dis pas ayons de l'espoir. Mais tous les retours que j'ai des gens qui m'écrivent, à part des haters d'extrême droite, mais globalement, c'est des gens qui me disent tu me donnes de l'espoir. Parce qu'on montre qu'il y a une fierté à se battre. Et qu'on peut retrouver une dignité et que ça peut marcher très concrètement. Et que ça peut en être autrement. On n'est pas condamné. En rien, on est condamné à avoir des polluants éternels à chaque fois qu'on boit de l'eau, à chaque fois qu'on mange des légumes ou à chaque fois qu'on cuisine quelque chose. On peut décider que ce principe, un monde très concrètement là, justement, un imaginaire que j'adorerais qu'existe, c'est que ce soit dans le sens inverse d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie chimique peut mettre, et c'est vraiment quelques multinationales hein, qui se comptent sur le doigt d'une main, peut décider toute seule, avec un grand secret d'affaires par ailleurs, donc on n'a pas accès, même les pouvoirs publics n'ont pas accès aux substances chimiques qu'ils utilisent, peuvent décider de mettre sur le marché des substances chimiques, sans contrôle, et ensuite c'est à nous de prouver qu'elles sont toxiques, c'est à nous de prouver qu'il faut les retirer et de batailler pendant des années. Il y a un dicton qui dit, on met 90 jours pour mettre une substance sur le marché et plus de 20 ans pour l'en retirer, quand bien même on savait depuis des années qu'elle était dangereuse. Et donc, moi, j'aimerais qu'on pense à l'envers. De la même manière sur la production, j'aimerais qu'on se dise, bah, on organise notre modèle productiviste. Il y a tellement d'emplois à créer, en effet. Il y a tellement de secteurs dans lesquels je crois qu'on doit réindustrialiser la France. On doit réouvrir des usines sur le fret, sur le rail. Dans l'agriculture, on va avoir besoin de main-d'œuvre. J'ai préféré qu'on parte de la question en se disant, quels besoins on définit ? Est-ce qu'on a besoin d'une voiture ou est-ce qu'on a besoin de mobilité ? Est-ce que donc, si c'est la mobilité le besoin, est-ce qu'on peut y répondre en développant à fond les transports en commun ? Moi qui ai grandi en Savoie, on ne pouvait pas faire sans voiture. Ma mère, aujourd'hui, elle ne peut absolument pas faire sans voiture. Mais si on lui donnait la possibilité de faire sans, elle choisirait cette possibilité de faire sans. Je crois profondément à l'intelligence des gens, globalement. Donc je me dis, j'aimerais tellement qu'on puisse être dans un monde économique où on se dit, on organise l'appareil productif en se disant, on va répondre à des besoins, on va allouer ces ressources-là, y compris des ressources temporelles, du temps des gens, le corps des gens, les ressources naturelles, pour satisfaire, pour tous et toutes, des besoins qu'on définit et qui sont essentiels. Et des besoins qui ne sont pas forcément utiles. Je crois qu'on peut avoir la musique, par exemple, des choses qu'on peut qualifier comme inutiles, mais qu'on décide d'y allouer des ressources. Par contre, il y a tout un tas de choses inutiles. La société de l'inutile, auquel je crois on doit renoncer et qui profondément nous rend pas heureux. Et François, tu le rappelais, il y a une décorrélation entre cette consommation de choses inutiles et le bien-être des gens, la santé, l'éducation, le bonheur même des gens. Donc réussir à décorréler ça et à se débarrasser de cette société de l'inutile.
Bon, si tu veux. Moi d'abord, je partage pas ton diagnostic sur le fait que aujourd'hui.
Tu parles à Hervé là. Hein.
Ouais, je parle à Hervé.
Non, mais excuse-moi, parce que
ouais,
la radio,
c'est vrai qu'on est à la radio. Non, quand tu dis, pour les gens, Elon Musk ou Bernard Arnault seraient des héros. Je suis convaincu que massivement, les gens ne les regardent pas du tout comme des héros.
On nous les présente comme des héros.
Oui, mais d'accord, c'est deux choses qui sont bien différentes. C'est-à-dire, il faut voir la masse d'efforts que doit faire le système pour se maintenir. C'est ça. Il s'agit de resserrer les mailles du filet. Pourquoi on va 2000 publicités par jour? Pourquoi on voit 10 000 marques par jour? Pourquoi à la gare du Nord, le grand panneau où il y avait les horaires de train, tchac, 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 il a été remplacé par un grand écran lumineux qui fait de la pub pour Audi? Pourquoi, quand on va aux toilettes, c'est comme Poutine, jusque dans les chiottes, il faut qu'ils nous mettent des écrans publicitaires. Parce que c'est comme quand le sable s'échappe de tes doigts, il faut que tu serres fort pour que ça ne s'échappe pas. Et là, l'imaginaire, c'est à la fois quelque chose de complètement immatériel. On se demande si ça existe dans un coin de cerveau. Enfin, bon, voilà. Mais en fait, il y a une gigantesque bataille sur cet imaginaire-là. Et une bataille où ils mettent des ressources matérielles gigantesques parce que, justement, ça n'adhère plus. Parce que le plus égale du mieux. La société de production-consommation porterait un idéal et qui apporterait du bonheur à tous, et l'innovation technologique qui serait synonyme de progrès social et de progrès humain, ce sont des affirmations qui ne vont plus de soi. Ça s'échappe. Mais moi, j'ai la conviction que nous sommes majoritaires, que le bon sens, il est de notre côté, que ça, c'est profondément dans le cœur des gens, et il faut trouver le moyen du réveil, mais que c'est là. Tu vois, et donc je partage pas ce diagnostic qui ferait que eux ils auraient un formidable récit et que nous on aurait... Non, c'est pas vrai. Je suis convaincu qu'en termes de récit, ce qu'on raconte qui apparaît comme du sens commun, c'est largement partagé aujourd'hui dans la société.
Je dis pas. Et par ailleurs, on le fait, pardon, je coupe, mais avec beaucoup moins de moyens. Moi, je trouve ça fascinant. Là, on a eu une publicité de Tefal, donc du coup, qui a dû faire un plan média total. Et d'ailleurs, encore des employés qui nous soutiennent à l'intérieur et qu'on soutient nous ont envoyé les mails encore internes. Et ils ont payé je sais pas combien de milliers, peut-être centaines de milliers d'euros pour faire des énormes panneaux publicitaires de partout aux abribus, dans les écrans lumineux, pour dire non, mais vous inquiétez pas, en fait, nos revêtements sont sûrs, ils ont prévu de faire venir des influenceurs dans l'usine. Enfin, c'est très drôle de voir tout l'appareil qu'ils doivent déployer, tous les moyens financiers qu'ils doivent y mettre. Quand on rappelle que, quand on voit que nous, on fait ça de briquet de broc, globalement, on fait ça, on se débrouille, quoi. On fait ça avec 3 francs 6 sous, et on est avec des gens qui ont des idées créatives à droite à gauche, on s'organise entre nous, et on arrive à ébranler. Alors, bien sûr que c'est insuffisant, bien sûr que c'est toujours frustrant, et qu'on aimerait renverser totalement la bascule. Moi, ça me donne toujours énormément de joie et de fierté collective de voir à quel point on arrive à ébranler un système qui a, pour lui, à peu près tout pour se maintenir. Et à quel point il est en train, justement, à quel point Goliath est en train de trembler.
Je reviens. Je ne sais pas s'il tremble quand même.
Je crois que si.
Bah, je crois qu'en tout cas, il
se défend.
Je crois qu'il a
peur. Il se défend très fortement.
Alors, il se défend parce qu'il a peur.
Il se défend aussi par l'autre imaginaire. Parce que là, il y a l'imaginaire, on va dire, des capitalistes, pour faire simple, des néolibéraux, des Musk, etc. Et puis, tu as aussi l'imaginaire sur lequel ils s'appuient, avec qui ils font une sorte de musique de chambre. C'est l'imaginaire, appelons-le fasciste ou d'extrême droite, qui va dire, presque par rapport au... Au souci que l'un et l'autre vous disiez, le besoin de stabilité, le besoin de retrouver un certain nombre de choses, ce monde assez peu enchanteur, mais qui arrive quand même à envoûter de Bardella, de Le Pen et de compagnie en France et puis ailleurs dans d'autres pays, revient quand même à projeter cet imaginaire très fort. Donc ils se défendent quand même. Ils me paraissent pas tout à fait trembler, c'est ça le problème. Ils tremblent, ils savent à quel point... Tu as raison, François, me semble-t-il, de dire les gens n'adhèrent plus, on est d'accord là-dessus, mais que du coup, ils sont en train de sortir un autre discours de sécurité qui semble convaincre un certain nombre de gens.
Je ne dis pas que c'est simple et qu'on va l'emporter. Je dis que la bataille est en cours et que, de toute façon, sur le plan idéologique, ou traduisons ça dans le langage de cette émission, sur le plan de l'imaginaire, ils sont défaits. je le redis, les mots concurrence, croissance, mondialisation, qui étaient notre ordinaire des années 90, aujourd'hui, ils n'osent presque plus les prononcer.
L'éditorial des Échos ce matin était assez drôle, la croissance et l'espérance, parce que ça frémit sur la croissance. Non, bon, mais on est d'accord.
Franchement, tu regardes ce que produisent les libéraux, c'est vide aujourd'hui. Sur le plan des idées, ils ont perdu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a gagné. Parce que la société, elle n'est pas portée que par des idées. Ça, c'est les intellectuels qui voudraient le croire. Elle est essentiellement portée par des intérêts matériels. Or, on a des intérêts matériels en face extrêmement puissants qui ont intérêt à l'entretien de ce système, à l'entretien d'une société de consommation-production, premièrement. Deuxièmement, une fois que les gens se sentent étouffés par ça, alors il y a un étouffement qui est là encore un étouffement matériel. C'est un tiers de la population, j'y vais en gros comme ça, mais qui est au ras de l'eau ou en dessous, qui se prive sur son assiette, qui prive ses gamins d'activité et qui est en état de rationnement. Sans compter qu'on nous met en fait à peu près tous les services publics en état de rationnement pendant qu'il y a un gigantesque gavage en haut. C'est quand même le déterminant de ce qui se passe aujourd'hui. Puisque tu lis les Échos de mon ami Bernard Arnault, c'est quand même, là-bas, à la une, t'as les dividendes, ça jubile, tu sens qu'ils sont comme ma fille, qu'ils aimeraient mettre des smileys, des points d'exclamation partout, tellement c'est la fête, quoi. C'est l'orgie. Et pendant ce temps-là, on rationne à la fois l'école, on rationne l'hôpital et on rationne sur les salaires. Donc c'est la grosse donnée, c'est gros comme une vache au milieu du couloir et il faudrait presque plus l'énoncer. Donc ça repose, la société, sur des intérêts matériels. Et évidemment, les gens qui sont étouffés par ça, à la fois étouffés sur le plan matériel, mais aussi étouffés sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, c'est le sentiment qu'il n'y a pas d'au-delà, que c'est comme ça, que ça ne va plus. Bon, eh bien, ils cherchent une issue. Et là, il y a une bagarre. Ma conviction, c'est que le bloc central libéral, il se rétrécit maintenant depuis 20 ans, depuis au moins le traité constitutionnel européen de 2005. Je rappelle quand même, 80% des ouvriers qui votent pour le non, 71% des employés, 55% des Français, un vrai vote de classe. Et depuis, le socle du bloc libéral ne fait que se rétrécir et aujourd'hui à vitesse accélérée entre la crise des retraites, la crise des gilets jaunes, la crise de l'agriculture et ça décroque du bloc central libéral. Et là, il y a une gigantesque bataille qui est vers quoi les particules qui décrochent sont raccrochées. Est-ce qu'ils sont raccrochés par le bloc national autoritaire ou est-ce qu'ils sont raccrochés par le bloc écolo-progressiste? Et là a lieu la bataille. Et je ne prétends pas qu'on l'ait gagné. Même, on peut dire qu'on doit parler de tout ça dans un moment qui est un moment de gravité, avec des élections européennes qui se profilent et où le bloc national autoritaire va flirter, sinon dépasser les 40%. Et où l'hypothèse d'une Marine Le Pen à l'Élysée qui était impossible il y a 3 ans encore devient chaque jour plus probable. Voilà le temps de gravité dans lequel on est. Et il y a une bataille autour de ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Nous devons l'emporter. Je veux dire, le Front populaire en France, c'est la réponse quand il y avait le nazisme en Allemagne. Nous, on a répondu par le Front populaire, tu le citais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de fatalité, nous devons l'emporter. Mais en revanche, que le bloc central libéral et l'espérance qu'il a pu porter soit aujourd'hui amoindrie, rétrécie, c'est une certitude. Et du coup, il y a quelle issue va être la nôtre?
Est-ce que ça n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord, ce bloc écolo-progressiste, sur le monde que nous voulons?
Moi, je crois que le conflit est important. On a besoin de ne pas être d'accord. On a besoin de débat. On a besoin de... Ça se décide. On ne peut pas décider comme ça d'un chemin qui embarquerait tout derrière nous. Je pense qu'il y a un certain nombre de socles, d'idées, de valeurs sur lesquelles on peut être d'accord. Et après, ça se crée dans le réel, en fait, cet imaginaire. Le monde qu'on veut voir demain, tout ça, il n'y a pas un programme établi. Je crois qu'on en a rappelé quelques ébauches. Et après, ça se fait avec nos mains, quoi. Ça se fait dans la matière. Et ça, c'est sain pour moi qu'il y ait des débats, c'est sain qu'il y ait du conflit, que l'espace politique soit une forme d'agone, que de ça peut naître des idées qui sont imprévisibles et que précisément on peut faire la phrase d'Hugo qui est d'étonner la catastrophe. C'est parce qu'il y a du débat qu'on arrive à étonner la catastrophe. C'est parce qu'il y a du désaccord qu'on arrive à avoir des idées qui sont un peu plus grandes que nous. Donc moi, je suis pas sûre que ce soit ça qui empêche vraiment de gagner. Après, peut-être, je te laisse pas votre avis.
Ça serait une très bonne nouvelle si les divisions de la gauche aujourd'hui, elles étaient liées à des questions de fond et à des visions de la société. Enfin, je considérerais ça comme une bonne nouvelle. On aurait matière à travailler. Je crains que ça ne soit pas le sujet. Je vais repartir d'une histoire, la bataille de Whirlpool, qui se déroule en 2017, au moment de l'élection présidentielle.
Fabricant d'électroménager.
Oui, Whirlpool à Amiens, qui fabriquait. Alors, je rappelle que le lave-linge est parti au début des années 2000, est parti en Slovaquie. Et là, on avait donc le sèche-linge qui fermait l'usine et qui partait en Pologne. Je veux dire, la première réaction, malheureusement, quand je me retrouve sur le parking au moment de cette annonce, c'est j'entends les assistés, les réfugiés, les étrangers. Et évidemment, il y a toute une bataille sur quelle est la cause de votre malheur. Est-ce que la cause de votre malheur, c'est le réfugié ou que vous voyez, soit dans la ville, soit à la télé? Ou bien est-ce que la cause de votre malheur, c'est celui qu'on ne vous montre pas? Et là, c'est quand même une bataille, je ne sais pas si c'est de l'imaginaire, mais enfin, c'est une bataille du réel et de la présentation du réel, de dire, ben voilà, j'arrive avec la gueule du PDG, avec sa baraque qu'il avait aux États-Unis à 5000 km d'Amiens, avec 17 salles de bain, avec des cours de tennis et avec un accès direct à la plage. Ben, c'est sûr que quand on montre ça aux ouvriers, la colère, elle est réorientée. Et la deuxième chose, et ça fait le lien avec ce que tu disais, que veut-on produire? La grande question aujourd'hui, c'est que veut-on produire? Comment veut-on le produire? Où veut-on le produire? Eh bien, quand on discute, parce qu'on a du temps dans une grève pour discuter avec les ouvriers en mangeant les saucisses sous les barnums, quand il pleut souvent en Picardie en plus, eh bien... que je leur dis, bah, vous savez, moi, un sèche-linge, bof, ça m'intéresse pas trop, j'en ai pas chez moi, j'ai pas envie d'en avoir. Le vent, il a toujours très bien fait l'affaire. Et les ouvriers répondent, bah oui, nous non plus, on n'en veut pas trop, on n'a pas ça chez nous, on n'a pas besoin. Mais en revanche, le sèche-linge, je me vois mal retourner au lavoir. Bah, donc ça veut dire que s'il y a une discussion avec les premiers concernés qui sont les salariés, on peut avoir une réorientation de la production, sachant que... Alors, ça peut être des lavomatiques collectifs, hein, on peut aller vers ça. Mais de toute façon, il faudra quand même des machines à laver, sachant que en France, il n'y a plus aucune usine de machines à laver. Donc là, ça passe par la discussion avec les salariés. Et je pense que... Mais encore une fois, ce sont les intérêts matériels qui décident. Qui ont décidé là que ça reviendrait moins cher d'aller le fabriquer en Pologne parce que y aurait des sous-traitants qui seraient moins chers, parce que la main-d'œuvre c'est moins cher. Enfin, tu connais ça par cœur. Et donc voilà, c'est comment on fait. Enfin, la bagarre, c'est de faire que sur le plan on vienne contrer les intérêts matériels. Et ça suppose quand même à un moment une prise du pouvoir, quoi.
Et juste très rapidement là-dessus, il y a plein d'exemples assez fous, même juste pendant la crise du Covid, comment des employés, c'était en Suisse, qui travaillaient dans l'aviation, qui donc ne servaient plus à grand-chose, simplement en posant la question c'était un État fédéral en Suisse qui a juste dit, bah voilà, en fait, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous savez faire, faire en sorte qu'on puisse tous partir à l'heure, gérer des flux de personnes. Et donc, en fait, on dit, bah tiens, ça tombe bien, parce que du coup, on a beaucoup plus besoin de fret de train en ce moment-là. Donc, en quelques semaines, ils ont pu être reformés et travailler ensuite dans le train. J'en parlais justement avec Sophie Binet, qui me donnait cet exemple en disant, bah, à un moment donné, on avait fermé une mine de charbon et on s'est dit, donc dans notre monde imaginaire, on arrête d'avoir des mines de charbon et on se dit, bah, on peut sécuriser, on peut décider en tant que société qu'on a intérêt à sécuriser les emplois, les quelques, là, par exemple, l'exemple très concret de Seb, très bien, donc le groupe Tefal, je reviens sur le débat qui a animé récemment, en disant, bah, on va décider en tant que société de sécuriser les emplois un an, deux ans, le temps qu'on puisse changer la ligne de production et produire des poêles en inox qui, elles, ne vont pas avoir des polluants éternels et garder les emplois en France. Il y avait un autre exemple aussi sur les pales d'avions qui sont en fait à peu près les mêmes compétences qu'on peut avoir pour faire des pales d'éoliennes. Donc il y a un savoir-faire qu'on peut faire, qu'on peut rediriger sans détruire les emplois, mais qu'on peut rediriger pour un travail qui, en plus de ça, a du sens et donc dans desquels on peut tirer une bien plus grande fierté. Et on en parlait même avec des raffineurs de Total. Des raffineurs de Total qui nous disent, mais nous, si on pourrait mettre nos compétences à autre chose, on serait les premiers à vouloir le faire. Donc il ne faut pas les laisser gagner sur cette bataille-là de l'industrie et des emplois, parce que dans le monde dans lequel je souhaite, en 2050 pour Pablo et sa bande, ce n'est pas un monde dans lequel il n'y a pas d'industrie, dans lequel il n'y a pas de travail, c'est juste un travail qui nous rend fiers et qui produit des choses dont on a réellement besoin et qui ne détruit pas, par la même occasion, nos capacités simplement d'existence.
Je rajoute un truc, si tu permets. Camille parlait des pales d'éoliennes. La Somme est le département de France où il y a le plus d'éoliennes. avec du coup, maintenant, de la réaction, du refus, et ainsi de suite. On n'a pas un seul emploi qui est lié à la production d'éoliennes. On n'a pas un seul emploi lié à la production d'une pale d'éolienne, d'un mât d'éolienne ou d'un boulon d'éolienne. Et comment vous voulez attacher les gens à cette énergie naissante si jamais ça ne crée pas du revenu derrière, si jamais ça ne crée pas de l'emploi, si jamais ça ne crée pas de la stabilité pour les gens du coin? Et encore une fois, ce sont les intérêts matériels qui ont décidé que ça ne se produirait pas ici. Donc, la question, c'est bien comment on reprend la main sur la production, comment ce sont les salariés, y compris. Tu évoquais la question de la technologie tout à l'heure. Ce sont aux premiers concernés, les salariés, de décider s'ils veulent la technologie dans leur travail et à quelle place ils veulent la mettre. Quand il y a, par exemple, la commande vocale qui arrive dans les ateliers de logistique, puisque la Picardie, comme plein d'autres régions de France, produisant moins, est entrée pour beaucoup dans la gestion de flux, donc avec de forts pôles logistiques. Bon, on met la commande vocale, qui fait que le gars, auparavant, il avait son papier, il se faisait son chemin et tout ça, il croisait un collègue sur son chariot, ils échangeaient un mot sur le match de foot de la veille, t'as vu PSG qui s'est fait battre par Dortmund, on verra bien là ce que ça donnera au match retour, et ainsi de suite. Bon, maintenant, il y a le casque. Ok, toute la journée. La production est multipliée par 6. Les gestes, ils sont multipliés par 6. La fatigue des épaules, elle est multipliée par 6. Ça veut dire le taux d'inaptitude, il est multiplié. Là aussi, il est multiplié par 2 depuis 10 ans. Bon, eh bien, quand on fait entrer, par exemple, la commande vocale, qui pourrait être une bonne chose, pourquoi pas? La première question, c'est est-ce que les salariés en veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Est-ce que ça correspond à une diminution du temps de travail? Est-ce qu'on leur assure des pauses entre deux? Enfin, à quelles conditions la technologie est importée, non seulement dans nos lieux de travail, mais aussi dans nos sociétés?
Reporter, le quotidien de l'écologie.
Je vais reprendre la question sous un autre angle. On va dire que la période des Lumières, au XVIIIe siècle, ça a défini une vision du monde, je ne sais pas si on peut parler d'un imaginaire, mais une vision du monde qui a conduit à l'universalisme, qui a conduit au concept des droits de l'homme, avec un grand H, qui a conduit surtout à l'idée que tous les êtres humains sur la planète avaient, quelle que soit leur culture, leur race, leur religion, un droit et une dignité, un droit égal à participer à l'avenir des sociétés et une dignité égale. Et donc, même si c'était un idéal, hein, ça a défini un idéal extrêmement puissant qui a inspiré, en tout cas en Occident, dans les pays occidentaux, 2 siècles de politique et en partie d'économie largement. On est maintenant, et là je reviens à la question des intérêts matériels, mais pour les prendre d'une autre façon, ce que nous dit aussi l'écologie, c'est que la question écologique, elle n'est pas attachée à tel département, à telle ville, à tel groupe social, mais elle englobe la biosphère. Et en fait, cette terre sur laquelle les humains, Pablo, Inès, Jim, Mohamed, Esao ou Zirou vont vivre et où nous vivons. Et où changement climatique, érosion de la biodiversité, qu'on soit français, américain, burkinabé, ou ça ne change rien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la réalité écologique nous conduit à repenser ce dont vous parlez. Et par exemple, on revient à nouveau à ton concept de bloc national autoritaire. Lui, il prétend qu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas cette solidarité nouvelle de tous les humains à l'égard des conditions dans lesquelles ils vivent et qui sont largement déterminées par les humains eux-mêmes et par leur rapport de domination. Mais ça nous concerne tous, qu'on soit chinois ou français ou burkinabé. Et donc, comment, face à ce bloc national autoritaire qui est utilisé par le capitalisme, par ceux qui disent la commande vocale et qui ont un imaginaire de l'intelligence artificielle et de la numérisation généralisée de tout, comment on redéfinit un nouveau universalisme, un nouveau cosmopolitisme? Et qu'on va arriver à redéfinir sur des bases. Vous avez compris ma question. Ils se disputent même pour savoir qui va répondre. Vas-y, Camille.
Non, mais je suis pas sûre d'avoir compris la question, justement. Donc, en fait, je sais pas, mais pour moi, c'est l'idée de cette phrase auquel je crois profondément, que personne n'est libre tant que tout le monde n'est pas libre. Donc, en fait, de la même manière, il y aurait une solidarité. Moi, je suis très contente si une population chinoise peut reprendre la main sur sa production pour son pays, pour que ce soit plus local autour de chez elle, pour qu'il n'y ait pas de l'esclavage de Ouïghours au passage. Enfin, je veux dire... Donc, en fait, il y a une solidarité des travailleurs, des écologistes, des générations. En effet, à travers le monde, on a tous et tout intérêt, je crois, à part ce bloc libéral, bien sûr, que, par exemple, Total Energy n'a aucun intérêt à ce qu'on gagne la bataille. Mais je pense que les gens, plus globalement, à travers le monde, ont intérêt à ce qu'on gagne cette bataille-là.
En fait, ma question, t'as raison, c'était pas une question, il manquait la question à la fin de la péroraison, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas redéfinir une valeur universelle qu'on pourrait appeler le cosmopolitisme? Voilà.
C'est à toi. J'ai tenté, moi, je
rame là.
Je nage, je te laisse nager maintenant, François.
En tout cas, je ne suis pas sûr que c'est en partant de concepts aussi larges, vastes, généraux, qu'on va embarquer du monde, quoi. Et moi, je ne perçois pas la nécessité d'un nouvel universalisme. Le mouvement ouvrier, tu sais que dans « Il est où le bonheur ?», je pratique beaucoup la comparaison entre ce qu'a pu produire le mouvement ouvrier sur les droits sociaux et ce que doit produire le mouvement écologique sur les droits environnementaux. Et le concept d'internationalisme, c'est-à-dire de solidarité entre les nations, de coopération entre les nations. Moi, je pense que il a existé dans le mouvement ouvrier, et ben il doit maintenant, c'est quand même une bataille, entrer sur le terrain environnemental et écologique. Donc, ceci dit, ça ne doit pas nous exonérer. C'est pas parce que c'est un phénomène mondial et ainsi de suite que ça ne doit pas nous exonérer d'agir tout de suite, ici, maintenant, à l'échelle qui est la nôtre. Et de penser que un véritable internationalisme, ce n'est pas se mettre tous d'accord pour avancer ensemble, mais c'est qu'il y en a un qui avance et que ensuite ça suit. Sinon, si au moment de la Révolution française, les gens, des députés étaient sortis quand il y avait la prise de la Bastille en disant bah, « Vous voulez une république ? On va aller consulter en Russie, on va aller consulter le Royaume d'Angleterre, on va aller en consulter la Prusse pour voir s'ils veulent bien tous faire une république », il n'y aurait jamais eu de république. Si au moment de Léon Blum... il était sorti en disant « Ah ouais, vous êtes tous en grève, là. Ouais, d'accord. Vous voulez 40 heures et les congés payés. » Ouais, mais bon, d'abord, il faut se mettre d'accord au niveau européen. Et donc, on va aller voir nos homologues, si l'Allemagne veut bien le faire. Et si l'Allemagne, l'Italie mussolinienne et l'Espagne franquiste sont bien tous d'accord pour accorder de nouveaux droits aux travailleurs, eh ben on va faire ça. Non, c'est pas comme ça que l'histoire fonctionne. Elle fonctionne parce qu'il y a des nations qui marchent en avant, qui ouvre la voie et qui entraîne derrière elle. Donc pour moi, il y a à la fois le devoir de faire ici, de transformer notre énergie, notre industrie, nos déplacements, nos logements et ainsi de suite, d'ouvrir la voie et d'entraîner derrière, de le faire en coopération, de le faire en discussion avec les pays qui sont le plus enclins à entrer dans cette voie-là et de faire le pari qu'en ouvrant la voie, et ben ça suivra. Maintenant, là où on a un souci, tu sais, mon obsession... du libre-échange. C'est que le libre-échange, au fond, il est un frein à tout ça, sinon un interdit à tout ça. Parce qu'en économie ouverte, toute mesure sociale, fiscale, environnementale, positive, est vécue comme un frein à la compétitivité. D'où la nécessité, en même temps qu'on opère la transformation que je décris, évidemment, de rendre notre économie moins ouverte. Il ne s'agit pas de vivre en autarcie, mais il y a la nécessité de régulation. Il est impensable de vouloir avoir de nouveaux droits sociaux, d'avoir de la régulation environnementale et de laisser entrer sur notre continent ou dans notre pays des marchandises produites en des endroits et dans des conditions qui ne respectent pas les normes qu'on s'impose à nous-mêmes. Sinon, évidemment... Donc, il faut comprendre ça, c'est que le libre-échange est une machine à dumping social, fiscal, environnemental, mais c'est encore davantage une machine à dumping démocratique. Parce qu'en fait, ça empêche les gens de pouvoir décider de ce qu'ils veulent faire, parce qu'il y a en permanence, comme un couteau sous la gorge, un espèce de chantage de « si vous faites ça, les emplois, les capitaux vont partir ». Donc il y a la nécessité de penser à la fois la transformation qu'on veut et la régulation de ce qui entre.
Et juste très rapidement, donc j'ai mieux compris la question. Il y avait aussi cette idée que nous, on a une solidarité très concrètement déjà maintenant entre plein d'activistes à travers le monde. Mais qu'on n'attend pas pour autant des grandes instances qu'elles bougent pour commencer à faire quelque chose. Très concrètement sur les fonds marins, on n'a pas attendu que l'autorité internationale des fonds marins du fin fond de la Jamaïque décide de faire quelque chose pour embarquer la France. Et ensuite, ça a créé des effets rebonds. Hop, on a eu la Suisse, et puis le Mexique, et puis le Canada. Et puis petit à petit, en fait, c'est devenu tellement majoritaire que ces grandes organisations n'ont pas eu d'autre choix que de suivre ce qui s'est passé. Donc je pense que penser cette solidarité internationale n'enlève en rien la nécessité d'ancrer très concrètement dans des territoires nos décisions et le début de nos luttes. Et après, une chose que je voulais dire aussi, c'est que si on commence à agir chez nous, en fait, on va défaire des mécanismes de domination qui se passent ailleurs. La surconsommation qui dans laquelle on est maintenu vraiment crée des phénomènes de domination totale, de néocolonialisme. J'ai un milliard d'exemples là-dessus. On travaille sur une pipeline de Total Energy, une entreprise française en Ouganda qui s'appelle ICOP, qui déplace plus de 100 000 personnes. Où on a rencontré, on est en lien avec ces activistes ougandais et ougandaises, principalement parce que c'est surtout des femmes qu'on connaît, qui doivent partir de leur terre pour nos besoins. Alors que le continent africain, tout le continent, historiquement, c'est 4% des émissions. Quand nous, on va réussir à faire en sorte que notre agriculture, par, je sais pas, la PAC ou par d'autres décisions, et ben, faire en sorte qu'on soit plus autant dépendant des intrants, des pesticides, et donc qui nous amène aussi à avoir une agriculture intensive, eh bien, on va permettre très concrètement à des paysans qui vivent au fin fond du Brésil de pouvoir utiliser leurs terres, pas seulement pour faire du soja qui est ensuite exporté pour soit nourrir notre bœuf, soit pour nos fermes usines de saumon. Donc en fait, en agissant sur notre territoire-là, je pense qu'on libère quelque part des territoires qu'on a dominés et qu'on continue à faire aussi à l'autre bout du monde.
Oui, mon propos n'était pas d'opposer une solidarité, un concept un peu fumeux ou vague d'universalisme ou de cosmopolitisme à la nécessité, à l'utilité de mener des luttes concrètes dans le territoire où on est ancré, que ce soit des luttes écologistes comme celles auxquelles Camille participe ou des luttes sociales et politiques comme celles auxquelles François participe. Mais de dire quand même, d'abord, par exemple, pour reprendre cet exemple de la Révolution française, pourquoi la France peut imposer la République ? Évidemment, elle ne va pas aller consulter le tsar de Russie ou le roi d'Angleterre, mais parce qu'il y a une préparation de plusieurs décennies d'idées qui ont conduit aux Lumières et qui ont conduit à l'idée même que la République était, par exemple, et pas la République d'aujourd'hui, mais la République de 1789, était un concept puissant et libérateur, et émancipateur. Et par ailleurs, je reviens sur cette question, tu rebondis, François, par le libre-échange, mais en même temps, les capitalistes veulent libérer les marchés, mais construisent des murs avec l'accord du bloc national autoritaire. Et pour, me semble-t-il, convaincre les gens, les emmener en leur disant que les murs, il faut peut-être en poser pour les productions de dumping, mais qu'il faudrait peut-être les abattre, parce que l'ennemi, c'est pas l'étranger, mais c'est éventuellement le dominant chez l'étranger, mais pas l'étranger en tant que tel, c'est-à-dire l'autre. Et c'est en ce sens-là que j'emploie ces mots un peu apparemment vagues et pas absolument bien définis, puisqu'on en discute, de cosmopolitisme et d'universalisme. C'est-à-dire, oui, il faut lutter contre le libre-échange, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire autour des murs qui s'élèvent de plus en plus massivement à travers la planète ? Alors que la question écologique, la question climatique nous dit, mais il y a, vos murs ne servent à rien.
Ma conviction est que si on place les gens dans une situation de stabilité, enfin voilà, quand on parle de libre-échange, je veux dire concrètement pour moi, je pars de ce que je connais, quoi. C'est Magneti Marelli, Honeywell, Pariso Siège de France, Abelia, Whirlpool, Continental, Goodyear, Flodor, même les chips ont quitté la Picardie. Bon, et donc ça veut dire, ce que je décris là, c'est une déstabilisation de milliers, de dizaines de milliers d'existences populaires qui trouvaient des salaires corrects parce que l'industrie payait correctement avec comité d'entreprise, avec 13e mois et au moins l'assurance que pour les enfants, il y aurait une place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les années 80, c'est installé dans la peur. Hein. On ne comprend rien à notre pays si on n'y place pas le mot peur et en particulier dans les classes populaires. La peur pour soi, de qu'est-ce qu'on va devenir demain, mais encore davantage, la peur pour ses enfants. Le gros souci qu'il y a eu, c'est que pendant ces années-là, cette peur, cette inquiétude et cette mise sur le côté a pas trouvé de voie. Normalement, c'est la gauche qui aurait dû être la voie de ça. Et au contraire, on a une gauche qui a construit l'Europe via Jacques Delors, le monde via Pascal Lamy, qui était le directeur de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la gauche qui a construit le monde, qui a déstabilisé les classes populaires. Donc, ma conviction est que c'est par le travail qu'est arrivé l'extrême droite chez moi. J'ai quand même 8 députés sur 17 en Picardie qui sont du Rassemblement national. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Eh bien, c'est par le travail, c'est par la stabilité, c'est par quelque chose qui est de l'ordre de la justice qui fait que les Français, tous les habitants de notre pays, peuvent vivre de leur travail, bien en vivre et bien le vivre. Et qu'à partir du moment où on garantit ça, on garantit que... Regardez comment le marché... déstabilise. La crise de l'agriculture, c'est une crise de marché. Quand on est agriculteur, on a besoin de pouvoir se projeter sur 25 ans, sur 40 ans, pour savoir dans quel sens va aller notre ferme. Quand vous avez des marchés qui varient tous les 3 mois, tous les 6 mois, quand on vous dit d'aller dans le bio et que finalement... Eh bien, 2 ans après, le bio est mort. Quand on laisse entre les mains d'un marché qui déstabilise tout, eh bien, les gens cherchent des solutions qui leur apparaissent comme de sécurité, qui sont souvent qui peuvent être les pires des solutions. Donc je le redis, la condition pour qu'on sorte de cette tenaille-là, pour moi, c'est qu'on incarne la stabilité, qu'on propose des mesures qui viennent reporter de la stabilité et chasser la peur du cœur des gens. Moi, dans ma première campagne, je disais, c'était la fin du hollandisme, je disais, mon adversaire, bien sûr, c'est toujours la finance. Mais c'est surtout l'indifférence, c'est la résignation, c'est l'abattement qui gangrène le cœur des gens. Et je pense que tous les militants, les personnes savent que leur principal adversaire, c'est cette résignation qui s'installe dans le cœur du collègue de bureau, dans le cœur du cousin, du voisin, et qu'on voit bien que c'est là-dedans qu'on est englué. Et je redis que si on veut embarquer les classes populaires, si on veut qu'elles aient des réflexes qui deviennent des réflexes progressistes et non pas des réflexes réactionnaires, la question de la stabilité, de la garantie de pouvoir bien vivre soi-même et d'avoir l'assurance que nos enfants pourront bien vivre aussi est évidemment la question clé. On n'y arrivera pas par des leçons de morale. Moi, j'en suis convaincu depuis 20 ans qu'on n'arrivera pas à chasser le Front National par des leçons de morale. On y arrivera parce qu'on incarnera la force qui remet de la stabilité dans le cœur des gens, et de l'espoir, et de la joie aussi.
Le mot peur, je rebondis là-dessus. Effectivement, c'est extrêmement important. Et les gens ont peur et sont dans une sorte de fatalisme. Et ce qui me frappe aussi, puisque cette discussion part quand même de l'idée du récit, et le récit écologiste est un récit de la catastrophe, et qui largement est aussi appuyé sur une forme de peur et d'éco-anxiété. Et même philosophiquement, le principe responsabilité de Hans Jonas est assis sur cette idée de l'heuristique de la peur. Mais enfin, laissons tomber ça. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est que dans le livre de Camille Etienne, et on en avait beaucoup parlé dans un entretien précédent, Camille dit... Je m'appuie sur la peur. Alors, c'est pas la même peur dont tu parles et qui est extrêmement compréhensible. Et ce que tu as dit est parfaitement éloquent et je crois on est d'accord là-dessus. Mais qu'il y a cette autre peur de l'écologie qu'en fait, Camille assumait totalement et dit ça peut être une force. En fait, c'est peut-être toute la question d'ailleurs, que ce soit dans le domaine plus écologique dans lequel Camille serait, que dans le domaine plus social et ancré dans le territoire que tu connais bien, François. C'est comment est-ce qu'on transforme cette peur en les mots qui ont été employés ici, fierté, dignité, puissance, héros, héroïsé, etc.
Ce que je disais, quand même juste pour préciser, c'est que je faisais une distinction entre des paniques morales agitées qui étaient des peurs créées, par exemple la peur de l'autre, sur lesquelles typiquement le bloc fasciste agite beaucoup, et des peurs qui sont réelles. Et en fait, je trouvais ça naïf de ne pas en faire un objet politique, c'est-à-dire de se dire « mais bien sûr qu'on est terrifié ». Il faut l'assumer que c'est terrifiant ce qui se passe, que c'est vertigineux pour une génération, mais même pour toutes les autres, parce que je crois pas que ma génération ait plus peur. En tout cas, j'ai jamais trop compris pourquoi on disait que ça allait plus faire peur à nous de vivre dans un monde où il y a des incendies, où il y a des tsunamis, où il y a des sécheresses, où il y a des denrées agricoles qui s'effondrent. Ça me fait autant peur, en fait, à moi, que dans l'idée d'imaginer qu'un jour j'ai un enfant et qu'en plus il va devoir vivre ce monde sans que je sois là pour le protéger. Je trouve ça au moins autant terrifiant. Donc je crois que les gens qui habitent aujourd'hui sur cette terre ont peur, et qu'en fait, comme on peut avoir peur de perdre son emploi aujourd'hui, comme on peut avoir peur de l'insécurité, pas de l'insécurité qui viendrait d'un autre comme ça, qui viendrait manger notre famille, mais d'une peur parce que ce qui arrive, bah, le fascisme qui augmente, bien sûr que c'est terrifiant. Sauf que ce que je déplorais, c'était le fait que précisément, on en faisait quelque chose qui était de l'ordre de l'intime. On imaginait qu'il fallait prendre soin de soi, aller voir son psy, bien se retirer de la lutte parce que sinon ça allait être un peu dangereux. Et puis surtout, se couper des informations anxiogènes. Dire, oh là là, il y a trop de catastrophisme, donc coupez-vous de ce qui ne va pas, prenez soin de vous, coulez-vous un bon bain, allez voir une psy, puis faites des groupes d'éco-anxiété. Moi, ce que je disais, c'est que toutes les émotions sont légitimes et on doit en faire un objet politique. Politique au sens collectif, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en colère. Quand on est une femme, là, en 2024, on a le droit d'être en colère. On a le droit d'avoir peur quand on regarde l'instabilité climatique dans laquelle on va grandir. On a le droit d'avoir de la joie, de l'amour, de l'élan quand on passe du temps sur ces luttes et qu'on a l'impression d'arracher des moments de paix au chaos du monde. Nos émotions sont légitimes et l'enjeu, c'est d'en faire un élan. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est de ne jamais les reléguer dans l'intime parce qu'alors, c'est là où elles créent de l'apathie. C'est là où elles nous empêchent de nous soulever. C'était plus ça mon point.
Cette peur, oui. François,
D'abord,
l'a transformée en élan.
Oui, un mot, émotion. Émotion, ça veut dire mise en mouvement. D'accord. Il y a moteur à l'intérieur. Donc, évidemment, l'émotion est essentielle pour mettre en mouvement. Et ensuite, c'est la raison qui doit canaliser vers où doit aller ce mouvement. Mais la peur, ce que j'appelle le pessimisme de la lucidité, l'horizon sombre devant nous, il est normal puisqu'il est là. Moi, j'ai des moments d'épiphanie dans ma vie. C'est pas comme si j'avais pas conscience qu'on fonçait dans le mur. Je l'ai depuis que j'ai 20 ans. Hein. J'ai pas attendu les années 2020 comme Macron pour avoir conscience qu'il y avait un problème écologique. Bon, là où ça devient quelque chose de plus poignant, et je me souviens, tu vois, descendant en Ardèche, parce que je vais comme un chien, va toujours pisser au même endroit. Je vais toujours en vacances au même endroit. Donc bon, avec mes enfants sur la plage arrière. Un été de canicule avec annoncé à la radio le fait qu'en une génération, deux tiers des vertébrés avaient disparu. J'écoute le conte de Amos Oz, Soudain dans la forêt profonde, puisque tu veux du récit, qui raconte la disparition. Il n'y a plus de coq, il n'y a plus aucun animal, il n'y a plus de chat, il n'y a plus de poisson. Et pour se souvenir de ce que c'était, la maîtresse les dessine encore. Il y a un potier qui fabrique encore des animaux qui ressemblent à ça pour maintenir ce souvenir-là. Bon, je suis dans ce moment-là et c'est un moment d'épiphanie où je me dis, putain, dans quel monde j'ai mis mes gosses, quoi. Voilà ce qui va advenir. Donc, évidemment, la peur est un moteur qui fait que... Ça passe au premier plan. Maintenant, la difficulté, c'est si on présente ça comme peur et qu'on ne propose pas les remèdes en même temps, ou les récits, comme tu dis. Tu vois, et je pense que, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en avant les grands moments où très vite, il y a eu des basculements qui ont été réussis. C'est vrai que j'avais fait un colloque sur « Faut-il une économie de guerre climatique ?» Partant de ce que fait Roosevelt à l'entrée de la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas de porte-avions, il n'a pas de char, il n'a pas de bombe, il n'a rien. Eh bien, en un an, il parvient à passer de 3% de son budget à plus de 50%. Et il n'y a plus une voiture qui sort des usines parce que toute l'énergie doit être consacrée à fabriquer du matériel militaire. Bon, évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite aujourd'hui, mais ce qui montre qu'on peut basculer. J'ai un autre exemple dans ce cas-là, et puis qui correspond à mon coin, c'est la betterave. Napoléon, il y a son temps, il y a le blocus continental, il parvient plus, il ne peut plus faire venir le sucre des esclaves et des îles, et les Français, et notamment les plus riches des Français, qui ont les dents cariées tellement ils aimaient bouffer du sucre à cette époque-là, eh ben, ils se retrouvent sans leur cam. Bon, et là, il y a une idée qui germe dans le cerveau, qui, pas de Napoléon, mais qui dit « Mais attendez, on n'avait pas réussi à un moment à fabriquer du sucre à partir d'une plante, et ainsi de suite. » Et Napoléon dit « Voilà, je donnerai plein d'or, je ne sais plus combien, mais au premier qui arrivera à me fabriquer un pain de sucre à partir de la betterave. » Et un jour, on lui amène ce pain de sucre, il se précipite dans l'usine, il remet... tout de suite, il arrache sa Légion d'honneur qu'il avait sur sa poitrine, il la remet sur la poitrine de Delessert, s'appelait l'industriel à l'époque, et en un an, il va y avoir des dizaines de milliers d'hectares qui vont être construits, faits pour la culture de la betterave. Il va y avoir des usines qui vont être liées à la betterave. Et il va y avoir, en termes de compétences, des pharmaciens, des ingénieurs, ainsi de suite, qui vont être, à qui on va apprendre à transformer la betterave en sucre. Et je pense que faire des, construire des récits à partir de ces grands temps de basculement. Alors, mon préféré, évidemment, c'est 1945, Ambroise Croizat, la sécurité sociale. Et là, c'est là où il y a du déjà-là, tu vois, dans parce que si jamais Ambroise Croizat avait dit, voilà, on va faire la sécurité sociale pour tous les travailleurs du pays, on l'aurait traité de fou. Si jamais ça n'avait pas déjà un peu existé. Et le fait qu'il y ait des caisses de solidarité, qu'il y ait des fédérations de travailleurs, qu'il y ait des mutuelles qui aient déjà mis ça en place, a permis d'avoir une utopie, parce que la sécurité sociale est une utopie. Une utopie réalisée, une utopie qui paraissait réalisable pour les gens parce qu'elle était déjà un peu là. Et du coup, je pense qu'il y a un enjeu à ce qu'on n'attende pas l'élection pour se dire « Allez, tout va changer », mais que d'ores et déjà, par nos expériences, par nos pratiques et ainsi de suite, on fasse advenir du déjà-là dans nos vies, du déjà-là collectif, par des associations, par des mairies, pour que ça serve d'expérience réussie qui puisse ensuite rouvrir de l'imaginaire. Parce que quand vous venez dire... Tu sais, l'année dernière, j'avais fait une proposition de loi sur les vacances pour tous. Bon, et si je viens dire « Ah ben voilà, on va faire le train à 50 euros », les gens, ils y croient pas. Si on leur dit « Ah ben l'Allemagne le fait, on n'est pas plus bête que les Allemands, pourquoi eux, ils le feraient et pas nous ?» Eh ben, automatiquement, le « c'est comme ça », qui est la pire des phrases, c'est la tautologie, un sou est un sou, enfin, tous ces trucs où finalement ça ferme le raisonnement, le « c'est comme ça », mais et qui fait, laisse croire que ça n'a jamais été autrement, que ça ne sera jamais autrement, que ailleurs ça n'est pas autrement, c'est ce qu'il y a de plus terrifiant. Ben donc, dès qu'on parvient à crever cette bulle du « c'est comme ça » pour dire « ailleurs c'est autrement », avant, ça a été autrement. On gagne la bataille de l'imaginaire, on gagne la bataille du récit, et on fait dire que bah, puisque Poitiers envoie pour un euro ses gamins à la mer et qu'ils peuvent partir en vacances, pourquoi c'est pas tout le pays qui aurait le droit d'être l'équivalent de Poitiers, tu vois? Et donc, je pense qu'il y a une bataille à dire, voilà, il y a du déjà-là, et notre objectif demain, c'est que ça soit pas des exceptions, mais que ce déjà-là devienne la règle.
François Ruffin, Camille Etienne, merci à tous les deux.
Merci à vous surtout.
Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/don. Reporter.
Le quotidien d'écologie.